Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 16. Et c'est presque tout le chapitre qu'il faut à lire. Exode chapitre 16, je lirai dans la Bible du Semeur. Toute la communauté des Israélites quitta Élim, et le 15e jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sin, qui s'étend entre Élim et le Sinaï. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Ils leur dirent, « Ah, pourquoi l'Éternel nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande, et où nous mangions du pain à satiété? Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. » Alors l'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Le 6e jour, il y en aura 2 fois plus que les autres à ramasser et à apprêter. » Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous saurez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Et demain matin, vous verrez se manifester la gloire de l'Éternel, car il vous a entendu vous plaindre de lui, l'Éternel. Car qui sommes-nous pour que vous vous plaigniez de nous ? » Oui, dit-il, vous le saurez ce soir quand l'Éternel vous donnera de la viande, du pain à satiété. Car l'Éternel a entendu les plaintes que vous avez formulées contre lui. Nous, que sommes-nous ? Ce n'est pas de nous que vous vous êtes plaints, mais de l'Éternel. » Puis Moïse dit à Aaron, « Ordonne à toute l'assemblée des Israélites de se présenter devant l'Éternel, car il a entendu leurs plaintes. » Pendant qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ceux-ci se tournèrent du côté du désert, et voilà que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit, « J'ai entendu les plaintes des Israélites. Dis-leur donc, ce soir, avant qu'il fasse nuit, vous mangerez de la viande, et demain matin, vous vous rassasirez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » En effet, le soir même, des cailles vinrent s'abattre sur le campement qui en fut recouvert. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Lorsque cette rosée se fut dissipée, on aperçut par terre, sur le sol du désert, un mince dépôt granuleux, fin comme du givre qui restait. En voyant cela, les Israélites se demandèrent les uns aux autres, « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. Voici ce qu'il a ordonné à ce sujet. Que chacun de vous en ramasse autant qu'il est nécessaire à sa nourriture, soit environ 4 litres par personne. Chacun en prendra pour le nombre de ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites agirent ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Lorsqu'ils mesurèrent leur récolte, celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en avait pris moins n'en manquait pas. Chacun en avait ramassé ce qu'il lui fallait pour manger. Moïse leur recommanda que personne n'en garde jusqu'à demain matin. Mais certains ne lui obéirent pas et en gardèrent pour le lendemain. Il s'y mit des vers et cela sentait mauvais. Alors Moïse se fâcha contre ces gens. Tous les matins, ils ramassèrent donc la manne, chacun la ration nécessaire à sa nourriture. Quand le soleil devenait chaud, elle fondait. Le 6e jour, ils en ramassèrent une quantité double, c'est-à-dire environ 8 litres par personne, au lieu de 4. Les chefs de la communauté vinrent en informer Moïse, qui leur dit, « C'est bien ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est un jour de repos, le sabbat, qui est consacré à l'Éternel. Ce que vous avez à cuire au four, cuisez-le aujourd'hui. Ce que vous avez à faire bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui. Et tout ce qui est en plus, mettez-le en réserve pour demain. Ils mirent donc le reste en réserve jusqu'au lendemain, comme Moïse l'avait ordonné. Et il n'y eut ni mauvaise odeur, ni ver. Moïse leur dit alors, « Mangez aujourd'hui ce que vous avez mis en réserve, car c'est le jour du repos en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de manne dehors. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, le jour du sabbat, il n'y en aura pas. Cependant, le 7e jour, il y eut des gens qui sortirent pour faire leurs provisions, mais ils ne trouvèrent rien. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'obéir à mes commandements et à mes lois ? Considérez donc que si l'Éternel vous a donné le jour du repos, il vous donne aussi le 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Le 7e jour, que chacun reste donc dans sa tente et que personne ne sorte de chez lui. » Ainsi le peuple se reposa le 7e jour. Les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de manne. Qu'est-ce que c'est ? Elle ressemblait à des grains de coriandre blanche et elle avait un goût de beignet au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez environ 4 litres de cette manne et conservez-les pour les générations futures, pour qu'elles voient l'aliment dont je vous ai nourri au désert, après vous avoir fait sortir d'Égypte. » Moïse dit donc à Aaron, « Prends un récipient et mets-y environ 4 litres de manne, puis dépose-le devant l'Éternel afin de le conserver pour les générations futures. » Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, Aaron le déposa comme souvenir devant le coffre de l'acte de l'Alliance. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité, aux confins du pays de Canaan. La mesure utilisée, environ 4 litres, correspondait à 1/10 de la mesure habituelle. Jusque-là, nous voulons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui a traversé les siècles, ta parole qui nous est parvenue, ta parole qui est toujours d'actualité pour nous. Nous avons besoin de toi pour la comprendre. Nous avons besoin que tu nous éclaires. Merci de le faire. Merci de parler à nos cœurs. Merci aussi d'être avec les enfants, de leur faire du bien, de leur parler aussi, de les visiter. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Dans une ville d'Auvergne, les autorités municipales avaient organisé une petite cérémonie pour fêter la doyenne de leur commune. Elle venait de franchir la barre symbolique des 100 ans. Alors la journaliste de la presse locale lui demanda à quoi elle attribuait son grand âge. La vieille dame a réfléchi, puis elle a répondu en souriant : « Je pense que le bon Dieu m'a oublié sur la terre. » Une autre dame, qui était longtemps la doyenne de l'humanité, Jeanne Calment, arlésienne, sauf erreur, elle a dit la même chose avant de décéder à l'âge de 122 ans. Elle a dit « Dieu m'a oublié ». Dieu peut-il oublier ses créatures ? Ces deux femmes auraient dû savoir, comme nous d'ailleurs, que Dieu n'oublie personne. La Bible dit que c'est Dieu qui tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout humain. Ça, c'est dans Job, chapitre 12, verset 10. Non, Dieu n'oublie pas sa créature. Mais l'inverse, est-il vrai? Est-ce que ce n'est pas nous qui oublions souvent Dieu? Le texte de ce matin atteste que, d'une part, Dieu n'oublie pas les hommes et qu'il continue de prendre soin d'eux, malgré leurs murmures répétés, malgré leur inconséquence. Mais d'autre part, ce texte nous montre que l'homme oublie très facilement ce que Dieu fait. C'est un passage donc qui est connu, qui est riche d'enseignements pour nous. Et ce matin, j'aimerais simplement ouvrir quelques pistes de réflexion pour nous aider à progresser dans notre relation avec Dieu. Dieu veut développer une relation personnelle et vivante avec chacun de nous. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de religion, mais Dieu est un Dieu de relation. Ce sont les gens, les hommes, qui s'intéressent à la religion. C'est même eux qui ont inventé ce mot de religion, mais pas Dieu. Mon beau-père, Henri Mochel, que vous connaissez, il dit tout le temps, Dieu n'a pas de religion. Quand il parle aux catholiques, les gens disent, ah, je suis catholique. Il leur dit, mais Dieu n'a pas de religion. Du coup, c'est un peu décontenancé. Dieu n'a pas de religion. Alors ce matin, je vous propose de voir premièrement la fin des illusions. Deuxièmement, un Dieu de relation. Et troisièmement, pour ne pas oublier. Alors si vous le voulez bien, on va regarder premièrement la fin des illusions. Quand on lit ce texte de l'Exode, il nous faut absolument regarder le contexte. Ça fait un mois que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ça, vous trouvez cette histoire au chapitre 12, verset 37. Un mois que le peuple d'Israël, finalement, jouit de son statut de peuple libre. Il sort de 400 ans, de plus de 400 ans de captivité. Et durant ce mois, beaucoup de choses se sont passées. Mais Dieu a été fidèle. À trois reprises, on a la démonstration de la fidélité de Dieu. Premièrement, dans Exode chapitre 14, lors de la traversée de la mer Rouge. C'est exceptionnel ce qui s'est passé. Dieu ouvre la mer pour que le peuple traverse cette mer. Et puis il la referme pour que l'ennemi qui veut du mal à son peuple disparaisse, les Égyptiens. Une deuxième fois, c'est au chapitre 15. Lorsque le peuple arrive, il trouve des eaux amères. Et là, il murmure. Mais Dieu va assainir les eaux amères, Mara. Et puis, la troisième fois, c'est lorsque Dieu conduit son peuple dans un endroit, Club Med. C'est le chapitre 15, verset 27. C'est Élim. Élim, c'est le Club Med. Hein? Une oasis luxuriante avec 12 sources d'eau, 70 palmiers, enfin bref. C'est idyllique. Hein? Et puis, sur ordre de Dieu, le peuple reprend sa marche à travers le désert. Et notre chapitre 16 s'ouvre sur une nouvelle difficulté. La difficulté est la suivante. Les réserves emportées d'Égypte sont terminées. Et la nourriture qu'il reste est insuffisante pour continuer. Quand on lit cette histoire, on se dit, certainement, ils vont crier à Dieu pour que Dieu intervienne, pour que Dieu fasse un miracle. Ils ont vu tellement de fois Dieu agir. Est-ce qu'ils ont retenu les leçons du passé? Est-ce qu'ils vont s'en servir? Est-ce que... Vont-ils, en un mot, faire confiance à Dieu? Ce Dieu qui a toujours été fidèle, qui les a délivrés, vont-ils le prier et attendre son secours? La réponse est non. Malheureusement, non. On est même surpris avec quelle rapidité le peuple regrette le pays de l'esclavage. Comment cela se peut-il? Jusqu'ici, Israël a été au bénéfice des différentes interventions de Dieu. Mais je me suis aperçu que jusque-là, Israël a été très passif. Il est spectateur de ce que Dieu fait. Et beaucoup parmi le peuple sont au bénéfice de ce que Dieu fait, mais ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Ils ne connaissent pas vraiment le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. En fait, on pourrait dire aujourd'hui, ils suivent une religion, mais pas le Dieu de l'Alliance. En réfléchissant à ce passage, je me suis demandé pourquoi est-ce que Dieu n'a pas anticipé le problème ? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas désamorcé la crise avant qu'elle n'éclate ? Je crois que la réponse se trouve au verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. » En fait, ce que Dieu veut faire, c'est manifester sa gloire. Dieu veut montrer sa gloire à son peuple. Dieu veut révéler à son peuple une nouvelle facette de sa puissance. Le Dieu Tout-Puissant qui a frappé l'Égypte et ses divinités. Vous connaissez les 10 plaies d'Égypte. Hein ? Eh bien, ce Dieu-là, c'est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu qui veut encore agir. C'est le Dieu qui est capable de pourvoir aux besoins de son peuple. Et pour cela, le peuple doit prendre conscience qu'il est dépendant de Dieu. Il doit prendre conscience ou perdre ses illusions sur lui-même. Prendre conscience de ses limites. Croire dans l'infinie bonté de Dieu. Quand on regarde ce texte, on s'aperçoit que la révélation est progressive. Et c'est Dieu qui en fixe les contours. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Mais en toutes circonstances, c'est lui qui garde la feuille de route. C'est lui qui garde le contrôle de tout. Il conduit son peuple dans le désert parce qu'il sait exactement ce qu'il veut faire. Et je crois que c'est important pour nous de nous rappeler cela. Parce que Dieu fait aussi la même chose avec nous. Dieu connaît chaque étape de nos vies. Contrairement à ce que nos mamies centenaires ont dit au début, Dieu n'oublie personne. Dieu a une feuille de route pour chacun de nous. Il ne nous oublie pas. Il sait parfaitement qui nous sommes et ce que nous vivons dans notre quotidien. Peut-être que Dieu permettra que nos ressources s'épuisent. Peut-être qu'il permettra que nos ressources deviennent insuffisantes. Non pas pour se moquer de nous, non pas pour nous laisser comme ceci, mais simplement peut-être pour nous montrer une nouvelle facette de sa personne, de sa puissance, de sa gloire. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas de nous agiter en tous sens, c'est de regarder à lui, de crier à lui, de demander son aide, de chercher sa face, de passer du temps avec lui. Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ? Mais ça ne doit jamais nous amener à douter ni de son amour, ni de sa capacité à pourvoir. Nous avons lu tout à l'heure un texte, le psaume 115, verset 3. C'est un de mes versets préférés. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. C'est formidable. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Est-ce que vous imaginez un seul instant que Dieu nous amènerait dans une situation simplement pour se moquer de nous, pour nous laisser mourir comme cela ? C'est pas possible. Alors quand on est devant ces situations-là, un peu comme le peuple d'Israël, demandons au Seigneur sa direction, cherchons sa face. Il va nous éclairer, il va répondre, parce qu'il le dit dans sa parole. Invoque-moi et je te répondrai, etc. Vous connaissez plein de textes. C'est le moment de les mettre en pratique. Il faut que ce que nous savons là-dedans, nous puissions les traduire dans nos vies. Parce qu'il y a trop de choses là-dedans et pas assez de concret, souvent. Je laisse cette piste-là. Je prends une deuxième, un Dieu de relation. C'est extraordinaire que malgré le mécontentement, malgré les critiques, Dieu ne reste pas insensible aux besoins de ses enfants. Il répond en donnant ce qu'il faut. J'aimerais quand même attirer notre attention sur une chose. Avant d'arriver au Sinaï, où il va recevoir, où le peuple va recevoir les lois de Dieu, Dieu fait preuve d'une patience extraordinaire et d'une miséricorde énorme vis-à-vis de son peuple. Mais lorsque l'alliance va être donnée, lorsque Dieu fixe le cadre dans lequel il veut que l'on l'adore et on s'approche de lui, alors Dieu va être beaucoup plus sévère avec son peuple. On a un exemple dans le livre des Nombres. Dieu punira sévèrement au chapitre 11, verset 1, la rébellion du peuple. 14, verset 1 et suivant aussi. Et là, vous avez une succession de jugements qui tombent. Dieu sera beaucoup plus sévère avec son peuple à ce niveau-là. Alors ici, dans ce texte, l'intervention de Dieu est extraordinaire. Vous imaginez les besoins en viande pour une population de près de 2 millions de personnes vont être couverts en une seule nuit par l'arrivée massive de cailles. C'est extraordinaire. Alors il y a des gens qui ont dit que oui, mais ça se passe des fois, et des fois ce phénomène se passe et se produit. Et... c'est pas tant le phénomène qui est important. C'est que ça se passe au moment où Dieu le dit. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Le miracle réside dans la précision. Et Dieu va donner des cailles à son peuple. Et puis Dieu va donner aussi la manne. Et la manne est encore plus étonnante. Parce que c'est quelque chose d'inconnu. Vous avez vu, le peuple va dire, qu'est-ce que c'est, suivant les versions? C'est quoi? Et ça va donner le nom manne, parce que c'est ce que ça veut dire, manne. Alors, outre ses qualités gustatives et nutritives, on a vu, un goût de miel, etc., etc., la particularité de cette nourriture réside dans son côté éphémère. À une certaine heure du jour, la manne fond. Tant pis pour les amateurs de grasse matinée. Et puis, cette manne, elle est particulière. Parce qu'on ne peut ni la stocker, ni la commercialiser, parce qu'elle ne se conserve pas plus d'un jour sur l'autre, excepté la veille du sabbat. Mais inversement, le jour du sabbat, elle ne tombe pas. Donc, on mange ce qu'on a récolté la veille. Ça, c'est uniquement la veille du sabbat et le sabbat. Sinon, chaque jour, elle tombe. Et chaque jour, le peuple doit ramasser. Mais on ne peut pas stocker, on ne peut pas garder. Cette nourriture qui vient quotidiennement du ciel ne peut s'amasser dans des greniers et on ne peut pas en prendre plus que ce qu'on a besoin. C'est un pain quotidien et il faut avoir confiance que demain il y en aura encore et demain il y en aura encore et que demain il y en aura encore et ainsi de suite. Dieu veut apprendre à son peuple à lui faire confiance. Ce Dieu qui conduit son peuple dans le désert pourvoit à ses besoins, et ici des besoins très pratiques, la nourriture, le pain quotidien. C'est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a repris cette expression de manne. Mais si on reprend cette expression de manne qui vient de la Bible, dans la langue française, il me semble qu'on l'utilise à contresens. On parle souvent dans les médias de la manne financière, de la manne budgétaire européenne, de la manne touristique ou encore de la manne pétrolière. Mais dans chacune de ces expressions, le mot manne renvoie à une quantité importante d'argent arrivant de façon inattendue ou sans effort. L'idée de l'argent facile n'est pas loin. Cette manne, on la qualifie aussi de providentielle, sans qu'une origine divine ou céleste ne soit vraiment suggérée. On est très loin du sens biblique du terme. Par le biais de la manne, Dieu permet à son peuple de subvenir à ses besoins tout en restant dépendant de lui. C'est chaque jour, le sabbat mis à part, que l'Israélite doit venir chercher sa nourriture, une relation de confiance et de foi s'établisse entre Dieu et son peuple. Et là, la religion s'efface au profit d'une relation vivante et bienfaisante. Dieu poursuit le même but avec nous aujourd'hui. Vous savez que Dieu veut nous rencontrer chaque jour. Est-ce que nous le rencontrons chaque jour? Si nous n'avons pas rencontré Dieu aujourd'hui, devinez qui a manqué au rendez-vous. Dieu veut nous rencontrer quotidiennement. Dieu veut développer une relation personnelle vivante avec nous. Chaque matin, il nous fixe rendez-vous pour passer du temps avec lui. Dieu se réjouit de nous voir venir à lui pour ramasser et recevoir ce qu'il a préparé d'avance pour nous aujourd'hui. Combien de fois nous partons dans notre journée sans avoir pris ce temps avec Dieu? Et après on dit, Seigneur, cette journée c'est une vraie galère. Mais est-ce que nous avons pris le temps d'en parler au Seigneur? Est-ce que nous avons pris le temps de nous nourrir? De recevoir ce qu'il avait préparé? Souvent non. L'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Alors ne partons pas le ventre vide spirituellement parlant, mais ressourcés parce que le Seigneur nous a parlé, parce que sa parole nous a fait du bien. Faisons attention aussi de ne pas capitaliser la grâce de Dieu en accumulant des connaissances bibliques, théoriques, qui finalement ne font que enfler notre orgueil. Ne restons pas non plus accrochés aux vieilles bénédictions reçues il y a bien longtemps. Parce que là, les vers pourraient s'y mettre. Et ce qui au départ était bon, ce qui au départ était un don de Dieu, pourrait devenir une puanteur. Dieu veut nous donner chaque jour des nouvelles bénédictions. Nous devons nous souvenir que Dieu est intervenu, oui. Mais ne gardons pas ces vieilles bénédictions pour les ressortir chaque fois. Parce que Dieu en a d'autres aujourd'hui encore. Troisièmement, pour ne pas oublier, dans sa providence, Dieu va accorder fidèlement à son peuple cette manne. Vous savez pendant combien de temps? Près de 40 ans. Vous imaginez? Près de 40 ans, le peuple n'aura pas besoin de dire « Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ?» Mesdames, c'est génial. Le menu est prêt d'avance. Peut-être, comment l'accommoder différemment, ça, peut-être. Mais au moins, vous avez le menu qui est prêt. Les Israélites pouvaient compter sur la fidélité de Dieu. Et cette manne va cesser de tomber le jour où ils vont entrer en Canaan et ils vont pouvoir manger des produits du pays. Quelle fidélité! Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, Dieu anticipe l'oubli du peuple et il prend des dispositions pour que justement les Israélites n'oublient pas ce que lui a fait. Et là, il va faire un autre miracle. Il va demander à Aaron de prendre 8 litres environ de manne, de la conserver dans un récipient pour les générations futures. Et là, pas de puanteur, pas de verre. Ça va se conserver afin que les Israélites puissent se rappeler de l'action de Dieu, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. La manne devient donc un signe tangible de la puissance de Dieu, mais aussi de sa fidélité. Pourtant, le peuple d'Israël finira par oublier et même se lasser de cette nourriture. Il ira même jusqu'à en être dégoûté au point de la mépriser, cette manne, et de la qualifier de pain misérable. Ça, je vous renvoie dans les textes que je vous ai donnés tout à l'heure. Nous devons absolument faire attention de ne pas nous lasser de toutes les bonnes choses que Dieu nous accorde. Ne nous comportons pas comme des enfants pourris et gâtés qui méprisent la parole de Dieu. Avec Dieu, rien n'est dû, mais tout est grâce. Il est bon de se rappeler les nombreuses interventions de Dieu dans nos vies et de le remercier pour chacune. Alors c'est peut-être facile de s'en rappeler quand tout va bien, mais justement dans les moments difficiles, rappelez-vous le nombre de fois où Dieu est intervenu. Vous savez, il y a un petit chant qu'on chante souvent à table, « Compte les bienfaits de Dieu ». Mais peut-être qu'on ne devrait pas forcément le chanter qu'à table. On devrait aussi peut-être le chanter dans les moments difficiles. Et ça nous encouragerait à persévérer. Nous devons apprendre à cultiver la reconnaissance pour ne pas oublier. Dans le Nouveau Testament, Jésus fera lui-même allusion à cet épisode pour affirmer sa supériorité sur la manne. La manne a été donnée pour un temps précis, la traversée du désert, à un peuple précis, Israël, pour un but précis, nourrir le corps. Mais elle n'a pas empêché toute une génération d'Israélites de mourir dans le désert. Jésus, lui, il est le pain vivant, donc pas inerte comme la manne. Il est descendu du ciel, c'est l'envoyé de Dieu, donné pour le salut du monde. Celui que le Père donne à tous ceux qui veulent le recevoir. En mourant sur la croix, Jésus s'est offert pour le salut de quiconque croit. La portée de ce salut est universelle. Elle concerne les hommes de tous les temps, de toutes les générations. Donc nous, aujourd'hui, pour nous, Jésus est la véritable nourriture spirituelle. Celle qui répond à nos besoins. C'est pour cela que nous avons besoin de Jésus tous les jours. C'est pour cela que nous avons besoin d'être assidus dans la parole de Dieu, dans cette lecture de la parole de Dieu. Parce que Dieu veut entretenir cette relation avec moi, avec toi, avec nous. Je sais que Dieu peut tout. Je sais que Dieu est tout puissant. Mais je sais aussi une chose. C'est que Dieu ne lira pas la Bible à ma place. Parce que c'est sa parole. J'aimerais vous lire un extrait de ce qu'un pasteur a écrit dans un livre qui s'appelle Crazy Love. Si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande. Voilà ce qu'il a écrit. Pendant une grande partie de ma vie, je n'ai pas trouvé Dieu attrayant. Et je n'ai pas eu suffisamment de confiance en son amour au point de lui soumettre tous mes espoirs et tous mes rêves. J'étais constamment en train de faire tous mes efforts pour lui être assez fidèle, mais sans jamais vraiment y parvenir. Je savais que Dieu voulait tout de moi, mais j'avais peur de savoir ce que cela voulait dire de tout lui abandonner. Fournir plus d'efforts ne marchait pas pour moi. J'ai lentement appris à demander à Dieu son aide, et il est devenu ce que j'aime et désire le plus. Pour conclure, ce matin, Dieu nous rappelle qu'il est fidèle. Il est là. Il prend soin de nous. Il ne nous oublie pas. Contrairement à nos mamies, il est là. Il sait exactement ce que nous vivons, ce que nous avons besoin. Il connaît chacune de nos vies. Et il veut pourvoir à nos besoins. Ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance, de regarder à lui. Ce que Dieu nous demande, c'est de cultiver la reconnaissance, d'apprécier chaque jour à leur juste valeur les bénédictions célestes. Et la première des choses que nous pouvons dire, merci Seigneur, c'est de m'avoir sauvé, de m'avoir racheté, de m'avoir donné une espérance vivante. Je ne sais pas combien de jours nous avons à vivre sur cette terre, mais je sais où je vais. Ce que beaucoup de nos contemporains connaissent pas, ne savent pas. Et c'est ça que vous devez voir dans leurs yeux, ce vide. Ils ont besoin d'être touchés par la grâce de Dieu. Et Dieu veut se servir de vous, de nous, de chacun, pour qu'ils puissent découvrir cela. Nous avons besoin de nous rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, nous dit Jérémie dans les Lamentations 3, versets 22 et 23. Et c'est dans un contexte difficile qu'il dit ces paroles. C'est pas quand tout va bien, c'est quand c'est terrible pour lui qu'il prononce ces paroles. Ne cherchons pas à capitaliser la grâce de Dieu, mais faisons confiance à Dieu pour recevoir chaque jour ce que nous avons besoin. Et Dieu fera le reste. Oui, nous sommes comme de l'herbe, nous ne sommes à rien. Et je suis toujours étonné que Dieu nous utilise. Et que Dieu n'est pas fatigué avec nous. Mais par la grâce de Dieu, il se sert de nous. Alors, nous pouvons le louer et le bénir ensemble. Que la gloire lui revienne. Amen.